pour qu'ils dominent, etc., sur les poissons, etc. Voilà, ces deux versets sont un peu l'architecture, ce qu'il faut retenir de ce que je vais enseigner ce matin. J'ai beaucoup travaillé ce message et certainement je ne pourrais pas le donner en entier parce que je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit pour insister sur certaines choses. Le Seigneur va me conduire et on continuera les dimanches suivants. En fait, c'est le message qui m'a été demandé au travers du Seigneur, au travers David Alonso, pour vous présenter ce que c'est que l'Église. Alors, c'est pas évident dans le sens où tout le monde a une conscience de ce que c'est que l'Église, mais en même temps, on pense que c'est simple, et en fait, c'est très compliqué à cause du péché. Ça pourrait être très très simple, l'Église, s'il n'y avait pas eu le péché, s'il n'y avait pas eu la chute, s'il n'y avait pas eu voilà, cette catastrophe de cette désobéissance de notre père Adam, hein, dont nous sommes héritiers, puisque chacun de nous, quand nous naissons dans ce monde, nous sommes pécheurs par l'ADN qui nous est transmis au travers de nos pères, etc., à cause du péché. Parce qu'il y a eu cette désobéissance originelle qui a fait que Dieu n'a plus permis à la race humaine d'entrer en contact avec lui parce que la rébellion l'habite. Hein. On le voit, des petits bébés déjà, etc. On voit très bien que cette rébellion, elle existe par nature. Et le problème du salut, la rédemption, c'est que Dieu a décidé de rétablir cette relation. Il a décidé par amour. Et sachez que c'est un privilège pour nous, race humaine, parce que les anges n'ont pas ce privilège. Les anges qui se sont rebellés et qui ont rejoint le diable, Satan, Lucifer, enfin toutes ces différents attributs qui sont accordés à cet ange extraordinaire que Dieu a créé, qui a entraîné d'autres anges avec lui, eh bien ils n'ont pas ce privilège-là. Et il est dit que quand il y a quelqu'un qui se fait baptiser, hein, qui rentre dans les eaux du baptême, qui témoigne de sa foi pour s'engager, eh bien les anges, ils se réjouissent et ils voudraient plonger leur regard dans ce mystère. C'est un mystère. Un mystère, pourquoi Dieu... Alors ça, c'est un vrai mystère, effectivement. Là, je ne vais pas l'éclairer ce matin parce que ça restera un mystère. Pourquoi Dieu a choisi la race humaine de lui donner une nouvelle chance et pas les anges. Là, c'est vraiment le mystère absolu qui n'appartient qu'à Dieu. C'est-à-dire que les anges rebelles, ils vont être un jour, à la fin des temps, eh bien, jetés dans ce qu'on appelle l'enfer, qui est le Hadès en grec, qui n'est pas le Shéol. Le Shéol, c'est là où nous serons quand nous mourrons avec le Seigneur en attendant qu'il y ait la deuxième résurrection. Ça, c'est le Sheol. Ça, c'est le séjour des morts qui a toujours existé dans l'Ancien Testament. Sheol, d'ailleurs, c'est hébreu. Et qui a été repris dans la théologie du Nouveau Testament. Donc, le Sheol, c'est là où nous serons, là où nos bien-aimés sont en ce moment et sont dans la paix, dans le Seigneur, comme on dit, et en attendant la résurrection. Mais l'Hadès, c'est l'enfer où, effectivement, les anges déchus seront pour l'éternité et qui ne pourront plus jouer ce rôle qu'ils jouent aujourd'hui pour nous tenter à nouveau nous rebeller lorsque nous sommes chrétiens. Amen. Le mystère, vraiment, c'est ça. Comme d'ailleurs le mystère du mal, pourquoi Dieu permet le mal, là, effectivement, on n'a aucune explication. Par contre, la collaboration, j'espère pouvoir éclairer ce point de collaboration avec vous. Et c'est merveilleux quand on y pense. Et le Seigneur m'a fait travailler ce message pendant très longtemps. Il n'est certainement pas encore au point, mais je vais essayer de vous le transmettre. Et ça concerne l'identité de l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église ? Qu'est-ce que c'est que ce peuple de Dieu que nous sommes, qui est le nouvel Israël ? Le nouvel Israël, c'est pas la théologie du remplacement, hein, c'est le peuple de Dieu, et les Juifs sont le nouvel Israël aussi. Hein. Alors que Israël, du pays d'Israël aujourd'hui, eh bien, c'est quelque chose que Dieu va utiliser, mais non pas dans la rédemption, mais pour d'autres points qui le concernent et qui sont liés à l'histoire. Alors, je vais faire une présentation, je vais essayer, enfin, je l'ai fait de la même manière que Tom l'a fait pour l'église de Lens. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de la présentation à l'Assemblée générale qu'il a fait, ceux qui étaient là? Ceux qui n'étaient pas là, levez la main, comme ça je vois ceux qui n'ont pas pu, voilà. Donc je renvoie à la présentation que Tom a fait de l'église de Lens. Elle est très simple. Et effectivement, je pense que là, on ne peut pas passer à côté. Et en même temps, on aura une présentation identique entre Lens et l'église d'Aubergenville. Alors, c'est quoi cette présentation? C'est la suivante. Voilà la présentation. D'ailleurs, Luc Maroni, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, pardon. Voilà. Je vais laisser la feuille de papier. Voilà. Donc, l'église missionnelle de Lens est basée sur trois, j'appelle ça priorités, hein, ce qu'il a retenu comme trois éléments importants pour l'église de Lens, qui est une église connectée, ça va avec le C de centralité, communauté, cité. Alors, donc il a développé ça. C'est une église qui est centrée sur Christ, la centralité effectivement, qui est la base d'une église de Jésus-Christ, qui est basée sur le Christ et sur Dieu. C'est une communauté, donc là c'est le fameux up, in and out de sa présentation aussi qu'il a fait quand il était venu. La communauté qui est effectivement l'élément central aussi qui chez nous ce sont les membres, et la cité. Alors la cité parce que l'église missionnelle elle est centrée, c'est une théorie, enfin c'est une approche récente qui s'est faite dans les années milieu du dernier siècle en Allemagne, qui est de dire que Dieu est en mission. Donc Dieu est en mission. Il a commencé sa mission en envoyant Jésus-Christ sur la terre. Hein. Donc il est en mission. Et cette mission, l'Église la prolonge. Donc l'Église est en mission. Voilà, donc c'est pour ça l'Église missionnaire. Et rentre dans une mission que Dieu a commencée et qui va se poursuivre jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la deuxième résurrection. Donc c'est la mission de la rédemption. Donc c'est cette idée qui est prévalente dans cette Église missionnelle. Donc tout est orienté là-dessus. Luc Maroni a beaucoup réfléchi à ça. Et toute son Église est orienté là-dessus, sachant qu'il ne supporte pas, entre guillemets, qu'un membre ne soit pas engagé dans la cité. Voilà, donc c'est carrément une nécessité dans leur église que tous les membres soient engagés dans la cité par des projets. Chacun doit porter un projet, en tout cas des mini-projets par groupe, etc. Ce que chez nous, on n'oblige pas parce qu'on est une église congrégationnelle. Alors, la différence, c'est que la congrégation, alors je l'ai mis ici, c'est une forme de gouvernement de l'Église primitive où l'autorité est donnée à la congrégation entière. En fait, on reste sur l'idée qui a prévalu au XIXe siècle, donc dans les années 1948, où les églises évangéliques se sont séparées de l'Église protestante de l'époque. Parce que l'Église protestante à l'époque, où il n'y avait pas d'Église évangélique, il y avait des évangéliques, si vous voulez, de cœur, mais il n'y avait pas de mouvement évangélique. Et ces églises protestantes, petit à petit, ont rationalisé, par la raison, le message chrétien. Et petit à petit, en plus, à l'époque, sous Napoléon, il y avait un lien très fort entre l'État et les églises. Du coup, les ministres, les serviteurs de Dieu à l'époque, les pasteurs, etc., ont commencé à être très proches du pouvoir Et vous savez, quand ça se passe comme ça, bien, il y a des corruptions, il y a des... Et puis petit à petit, ils ont carrément renié la foi en Jésus-Christ, qui n'était plus qu'un mythe. Ce n'est plus qu'un mythe à l'époque dans les églises protestantes. Et donc les églises évangéliques ont réagi, et en 1948 à Londres, dans le monde entier, il y a eu des pasteurs du monde entier qui sont venus. En France, il y avait deux pasteurs qui étaient présents à ce moment-là, mais c'était très nombreux, pour créer le mouvement évangélique. Et ça aussi, ça fait partie de notre identité, connaître qui nous sommes. Et depuis ce temps-là, on appelle ça un mouvement congrégationaliste. Congrégationaliste, alors pour ceux qui viendront à la prochaine rencontre de la théologie du Nouveau Testament, ça portera là-dessus. Et vous verrez que quand on étudie le Nouveau Testament, l'Église primitive, on retrouve ce mot-là, bien sûr qui n'existe pas dans le Nouveau Testament, congrégationaliste, mais on retrouve cette forme d'organisation de l'Église. À savoir, les Églises sont indépendantes. Nous, on est indépendants de l'État et indépendants d'un mouvement. Le mouvement RNC, c'est simplement un lien relationnel avec d'autres églises, mais pas un lien juridictionnel ou doctrinal, comme dans les églises réformées, où il y a des synodes nationaux qui prennent des décisions qui doivent être appliquées dans les églises locales. Donc, on appelle ça des églises presbytéro-synodal, parce que presbytre, ça veut dire ancien, et synode, ça veut dire une obligation nationale de suivre des... Donc, vous voyez, ça n'existait pas du tout dans l'Église primitive, ce genre de choses. Donc, nous, on est resté sur la base d'une Église évangélique, congrégationnelle. Ce qui fait que c'est un peu différent, mais on retrouve les trois aspects, c'est que cette Église est une et indivisible. Donc elle est une dans le sens où, un peu comme la Trinité divine est une, il n'y a qu'une seule Église, mais dans cette Église, il faut distinguer trois choses. La première, c'est l'épouse. On est une épouse. Hein, et cette épouse a la particularité d'être universelle, elle n'est pas locale. L'épouse de Jésus-Christ est et universelle et intemporelle. Depuis qu'elle a été créée par le Saint-Esprit à la Pentecôte, tous ceux qui sont nés de nouveau, eh bien, ils sont épouses, ils forment cette épouse. Il n'y aura qu'une seule épouse. Et à la fin, quand cette épouse se manifestera avec son époux, eh bien, c'est cette partie-là qui va se manifester. Et vous voyez, on retrouve la centralité, la hein, centralité du Christ, qui se trouve dans l'église de Lens, sans aucune ambiguïté là-dessus. Hein. Donc l'église missionnelle est aussi, bien sûr, congrégationnelle. Vous voyez, centralité de Christ. Puisque l'épouse n'a qu'un seul époux, c'est Christ. La deuxième entité ici, qui s'appelle l'Ecclésia, sur laquelle Jésus a statué, quand il a dit Pierre est sur cette pierre, je bâtirai mon Ecclésia, et les portes de l'Hadès ne prévendront pas contre elle. Donc c'est bien les portes de l'enfer ne prévendront pas contre elle. Donc quand on est dans l'Ecclésia, eh bien nous sommes gardés de la puissance de l'ennemi. Et là, on rentre dans la compréhension du combat spirituel, où lorsque on est dans l'Église et dans l'Ecclésia, eh bien, on est vraiment protégé de toutes les attaques de l'ennemi. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'attaque, ça veut dire qu'on est protégé, que le Seigneur nous garde et nous sort de toutes ces attaques spirituelles. Donc l'Ecclésia, qui est en fait... un mot qui veut dire communauté. Hein, commun, communauté, c'est une assemblée, c'est une communauté. Donc vous voyez que ici, l'église de Lens, il n'y a pas de souci, on est dans la même compréhension de ce que c'est que l'église. Et enfin, l'État. Alors l'État, c'est bien sûr un mot aussi qui n'existe pas dans le Nouveau Testament, mais qui a été inventé récemment à la Renaissance pour désigner l'ensemble des pouvoirs de gouvernement. hein, de ce qui est gouvernement. Et on voit que Jésus, quand il a créé l'Église, il s'est adressé à Pierre pour lui donner les clés. Les clés sont les clés du gouvernement, de la gouvernance. Et Pierre n'a pas gouverné l'Église tout seul, il a gouverné avec les autres apôtres, les 12. 12, d'ailleurs, est un nombre symbolique qui désigne la totalité. Et on voit dans les Actes des apôtres, certains l'appellent le cinquième évangile, c'est-à-dire les Actes des apôtres, ensuite après il y a les épîtres, ils retracent la vie de l'Église primitive. Et dans les Actes des apôtres, on voit que, effectivement, c'est les anciens et les apôtres qui dirigeaient l'Église. Donc il y a une autre entité, qu'on peut appeler l'État aujourd'hui, qui permet de mieux étudier ses pouvoirs de gouvernance, et aussi de remédier. Et là, c'est un élément important pour expliquer comment on peut éviter les problèmes dans les églises, si on comprend le rôle et la fonction de l'État. Alors dans cet État, en fait, son rôle, c'est essentiel, c'est de conduire la mission. Or, la mission chez nous, elle se traduit par trois mots, établir, prier, évangéliser. Établir des communautés d'hommes et de femmes libres, hein, c'est dans ce sens que nous sommes entrés dans le ministère de prière de la Maison d'Élie, qui aide des chrétiens à devenir libres dans leur personnalité pour pouvoir entrer dans leur destinée, pour pouvoir être efficaces pour le royaume de Dieu. Le deuxième, c'est prier sans cesse. Hein, c'est pour ça que la prière dans le combat spirituel, dans Éphésiens 6, vous voyez toute une série d'armes qui sont présentées par Paul du chrétien, qui est vainqueur, et il termine par la prière, prier sans cesse. La prière, c'est l'arme absolue, les autres ne sont pas à négliger pour autant, mais c'est l'arme absolue, la prière, c'est cette communication avec Dieu que nous avons en permanence, et surtout en tant qu'épouse, que nous prions, comme Jésus priait le Père. Tous les jours, il se mettait à part, parfois des nuits entières, il priait, et le lendemain matin, il prenait les décisions qu'il voyait faire au Père. Que ce soit des miracles, que ce soit le choix sur des collaborateurs, sur des apôtres, et il les a choisis après avoir prié et pas choisi et a prié après. Vous voyez, très souvent, c'est un des problèmes des chrétiens, c'est qu'ils prennent des décisions, et moi j'en étais aussi, hein, dans le passé j'ai fait ça, et ensuite après on demande à Dieu de bénir les décisions. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est Jésus, il priait, et le matin ou des jours après, il prenait les décisions en fonction de ce que le Père lui révélait. Et enfin, l'évangélisation, comme des ambassadeurs. Évangéliser comme des ambassadeurs, c'est être dans le monde, mais pas du monde. Et évangéliser, c'est influencer les gens par notre opinion, ce que nous croyons, en espérant que leur conscience se réveille et qu'ils acceptent Jésus, parce que c'est ça l'objectif, puisqu'on ne peut pas changer le monde corrompu par simplement une morale, hein, puisque c'est Dieu qui doit venir dans la vie des gens pour les changer de l'intérieur. Et la cité est une des cibles essentielles de l'évangélisation, bien entendu. Donc la cité, on le retrouve là. Cité. Sauf que c'est pas la seule priorité. C'est parmi d'autres priorités. Que ce soit la cité d'Aubergenville dans laquelle nous sommes, bien sûr, nous sommes appelés à la transformer par l'Évangile. Et je bénis le Seigneur parce qu'il commence à y avoir, voilà, des choses que le Seigneur montre pour être plus impliqué dans la cité. Et particulièrement Tom, qui a accepté, il a eu des combats la première année, accepté de rentrer dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, qui est un principe chrétien, qui a été développé par un pasteur au XIXe siècle, qui maintenant commence à être accepté de plus en plus dans les milieux politiques pour créer de l'emploi. Eh bien, c'est effectivement une manière, mais ce n'est pas la seule manière. Par contre, ça nous manquait, aujourd'hui à Elisabethville, cette dynamique de pénétrer dans la société pour créer des emplois de sens, des emplois où des chrétiens peuvent être influençants sur ceux qu'ils dirigent, C'est déjà le cas de l'école, hein, l'école chrétienne, hein, qui elle influence par les métiers qu'ils exercent. Donc il y a différentes manières d'influencer en tant qu'ambassadeur, mais effectivement, sur le plan de la ville, nous, on n'avait pas encore cette influence qui pourra se faire dans la nouvelle génération qui se lève maintenant pour être témoin dans sa ville. Et là, on peut amener le royaume de Dieu dans les sphères de la société. Mais ça nécessite une compétence, parce qu'on peut pas, voilà, à l'école, ils peuvent pas instruire des enfants sans avoir les compétences nécessaires. Et c'est pareil dans l'économie, si on n'a pas les compétences, ben, il vaut mieux pas se lever, parce que ce sera un contre-témoignage. Mais c'est pas le seul, c'est pour ça qu'on n'a pas que la cité, on a un État qui doit être responsable de cette mission. Et qui est la mission, donc, en trois points que j'ai dit ici. Donc, l'Église est une, indivisible et irréductible. Irréductible, c'est qu'on ne peut pas diminuer plus l'État, on ne peut pas diminuer plus l'épouse. L'épouse, c'est l'épouse. L'Ecclésia, c'est l'Ecclésia, vous voyez. Donc, ces trois éléments sont effectivement présents dans la compréhension de ce que c'est que l'Église. Quand on connaît son identité, et c'est pas évident. Vous voyez, à l'adolescence, on sort de l'enfance pour aller vers le monde adulte. Et là, on découvre que c'est pas si glorieux que ça. Ou c'est pas si glorieux qu'on s'est imaginé en tant qu'enfant en projetant sur le monde adulte. Et là, il y a deux choses qui se passent. Soit on devient idéaliste, c'est-à-dire qu'on sublime ce qu'on voit qui ne se passe pas, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes, hein, Greta Thunberg, vous voyez, c'est un des trucs. On va prêcher aux grands ce qu'il faudrait faire pour que, voilà, tous ces problèmes d'écologie puissent être résolus, etc. Donc on rentre dans l'idée, c'est parce que, en fait, pourquoi c'est idéaliste? Parce que vous voyez bien que les grands ne suivent pas, même les États-Unis qui s'assied sur l'écologie, alors que tout le monde est paniqué de tout ce qui se passe. Soit on rentre dans l'idéalisme en tant qu'ado, en tant que sortant de l'adolescence, ou alors on accepte les choses et on devient pessimiste et on rentre dans la vie comme tout le monde, voilà, et on fait. Moi, je suis une génération de mai 68, hein, j'ai connu ça quand j'avais 20 ans. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui étaient sur les barricades, qui lançaient des pavés, etc., ils sont rentrés dans des chaussons de la vie bourgeoise. Et ils sont complètement ceux qu'ils avaient décriés quand ils avaient 20 ans. Donc on a les deux possibilités. Il y en a qui sont toujours idéalistes aujourd'hui, hein, qui espèrent toujours changer le monde, puis d'autres qui rentrent dans les chaussons pour faire comme tout le monde, et puis gagner son argent, faire métro, boulot, dodo, et puis basta, quoi. Nous, en tant que chrétiens, si on connaît notre identité, on peut changer le monde. Allô? Vous, les jeunes qui êtes là, vous y croyez, non? J'ai pas beaucoup d'enthousiasme, là. Ça veut dire que vos responsables de jeunes qui sont pas là, je vois pas Florence, elle est en bas, eh bien, ils ont du boulot. Ils ont du boulot pour vous donner cette envie. Non, mais je plaisante parce que je sais qu'elle le fait et responsable le font. Mais il faut que vous en preniez conscience que vous pouvez changer le monde. Mais pas avec ce que je viens de dire tout à l'heure, ni avec l'idéalisme, ni avec le statu quo. Mais en vous projetant dans la réalité de ce que vous êtes en Christ. Les apôtres, à l'époque, ils étaient une poignée, hein, ils étaient 12, et ils ont mis le monde sans dessus-dessous. Alors, c'est ça la réalité historique du christianisme. C'est qu'en l'espace d'une génération, ils ont changé le monde complètement. Avec ma famille, quand les enfants avaient 10 ans, on a pu aller en Angleterre, à Bristol, dans une famille qui nous a laissé sa maison. Et à Bristol, il y a un vestige romain, c'était une forteresse romaine qui était là. Et on est allé dans le musée. Et dans le musée, on a vu des pièces, énormément de pièces, des pièces de monnaie, sur lesquelles étaient écrites des malédictions sur les chrétiens. Il disait des malédictions sur les chrétiens, etc. Il le jettait dans la pièce, dans la fontaine, pour maudire un chrétien, etc. Donc ça veut dire que le christianisme avait pénétré déjà en Angleterre ou à la fin du 1er siècle. Hello? Ça veut dire qu'il y avait des ambassadeurs, des chrétiens, qui, pour eux, le témoignage de Christ, l'évangélisation, était le sens de leur vie. Et qui ont pu changer complètement la société, en tout cas occidentale, et leur vie sur l'héritage des chrétiens, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont donné leur vie pour cela. J'aime bien lire, moi aussi, des livres non chrétiens, enfin écrits par des non chrétiens. Et j'ai lu un petit fascicule, un livre de poche, sur quelqu'un qui est non chrétien, sur Martin de Tours, qui s'appelle Saint Martin. Martin de Tours, il était près de, je cherche le nom, à Tours, juste à côté de Tours, je suis bête, juste à côté de Tours, enfin c'est pas exactement un tour, mais c'est dans, voilà, le long de la rivière, il y a un nom en particulier. Et ce Martin de Tours, en fait, c'était un soldat romain qui est en Hongrie, a rencontré le Seigneur. Il a fait une expérience de rencontre avec le Seigneur. Et en tant qu'officier romain, il a été déplacé en France, donc il est venu en France, dans la région de Tours. Et là, en plein hiver, il y avait des hivers à l'époque très, très rudes, 4e, 5e siècle, très rude, eh bien, il a vu un pauvre qui, enfin, beaucoup de pauvres à l'époque, il a vu des pauvres qui étaient là, alors qu'il était soldat romain, eh bien, il a déchiré sa tunique avec son épée et il a recouvert un pauvre par sa tunique et l'autre moitié, il l'a gardée. C'est pour ça que quand vous voyez Martin de Tours, vous voyez toujours cette tunique dans les statues de Saint-Martin. C'était un homme convaincu par sa foi. Et il était tellement rempli de l'Esprit de Dieu que, je ne raconte pas ces histoires-là, c'est un inconverti qui la raconte, que quand il était convoqué par l'empereur romain qui siégeait en Allemagne, il y est allé. Et il était assis à côté de lui. Il a fait quelque chose que n'importe qui l'aurait fait, il aurait été la tête coupée. C'est-à-dire que l'empereur, avant de boire, il donne sur la droite le vin, enfin la boisson qu'il devait boire, il le donnait à droite pour que celui qui était à la droite puisse lui redonner. En fait, l'idée, c'était ça. C'est l'empereur est au-dessus de tout le monde. Et celui qui est à la droite, eh bien, il doit lui redonner le verre pour qu'il puisse le boire. Et quand l'empereur a fait ça avec Martin de Tours, Martin de Tours s'est tourné à sa droite et il a donné à un ecclésiastique, un prêtre de l'époque, et il l'a ajouté en disant « Je donne d'abord calice à celui qui est chrétien ». Avant de le donner. Alors, ce n'est pas exactement cette parole qu'il a utilisée, vous pouvez retrouver les paroles. Et là, dans l'auditoire, il y a eu un silence de mort. On entendait les mouches voler, parce qu'il savait que ce genre de geste allait lui couper la tête. C'était la règle, c'était ce qui se faisait à l'époque. Et au lieu de cela, l'empereur, il a reconnu l'autorité de cet homme. Et il n'a pas du tout coupé la tête. Il est retourné tranquillement autour. Il a continué sa vie. Et il a respecté la capacité de cet homme à lui résister. Et vous, comme quoi, avec notre raison, nous pensons des choses qui sont de la sagesse humaine. Mais si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, il nous fait faire des choses dans le monde, sur cette terre, des choses qui peuvent parler à des gens qui sont en autorité pour montrer qu'il y a une autre autorité au-dessus, qui est celle de Dieu. Et on l'incarne, cette autorité, non pas par la peur, mais par l'audace. Il y a trois A qui caractérisent les premiers chrétiens. C'est l'audace, l'autorité et, troisième, je ne me rappelle plus, il y a l'amour, mais il y a un autre qui est là, qui décrit une ténacité, qui caractérisait les premiers chrétiens. C'est cette audace. Est-ce qu'aujourd'hui, cette nouvelle génération a l'audace de parler de leur foi? L'audace, non pas seulement de parler, mais de l'incarner, de faire comme ce passage que nous avons lu, de rayonner de l'amour de Dieu. C'est ça qu'il nous faut. Et ça, ça change le monde. Ça met le monde sens dessus-dessous. Parce que ça désarme. Ça désarme ceux qui veulent utiliser des armes charnelles, mais qui ne sont que charnelles, hein, qui ne peuvent vous enlever à la limite votre vie terrestre, même pas du tout votre vie intérieure, votre vie spirituelle. Et c'est de ça qu'il nous faut. C'est de ça qu'il nous faut. Par rapport à vous voyez, on cherche des outils d'évangélisation, c'est ceux-là qui vont marcher et qui ont toujours marché. Dans toutes les générations, dans toutes les sociétés, c'est l'audace de résister à l'autorité charnelle quand il le faut. D'ailleurs, les apôtres nous ont dit, mais est-ce qu'on doit plutôt obéir à Dieu ou aux hommes quand ils les ont menacés en disant maintenant, on vous lâche, mais vous n'évangélisez pas. Ils auraient pu se carapater en disant, le Seigneur a répondu, il nous a gardés. Ils ont résisté. Et devant la menace, ils ont dit, mais est-ce qu'on doit plutôt obéir à Dieu ou aux hommes? Et ils sont partis là-dessus, ils les ont laissés partir. Parce que l'autorité spirituelle est une autorité qui, quand le temps de Dieu n'est pas arrivé, il vous donne la possibilité de le glorifier. Est-ce que vous voulez glorifier Dieu dans votre témoignage, dans votre vie de tous les jours? C'est ça la vraie question. Et ça marche aussi bien aujourd'hui, c'est pas parce que les gens sont plus durs, ils sont pas plus durs. Ils sont tous les mêmes. Un inconverti qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut pas réagir autrement que de dire bah, c'est de la foutaise. Hein? Bon, c'est pas méchant. En plus, vous n'allez pas être mis en prison. Alors qu'il y a dans des pays, on les met en prison pour beaucoup moins que ça. Il nous faut à nouveau retrouver le sens de l'autorité spirituelle que Dieu met en chacun de nous. Et c'est ça l'objet de cette présentation que je vais vous faire, qui est la suivante. Pour comprendre l'Église, il faut comprendre le contexte. Et moi, longtemps, je n'ai pas compris ça non plus. C'est pour ça que je peux vous l'enseigner aujourd'hui, parce que c'était une révélation pour moi. Et c'est une révélation à partir du livre de la théologie du royaume. Hein. Vous êtes bénis, vous qui le suivez, parce que vous allez comprendre ça. D'autres ne le comprennent pas et passent à côté de cette compréhension de la coopération. Alors c'est quoi? En fait, il faut placer l'Église dans l'histoire. Et l'histoire est représentée, vous voyez, par cette flèche bleue qui a un commencement et une fin. En fait, c'est Alpha et l'Oméga, hein, c'est Christ qui a dit « Je suis l'Alpha et l'Oméga », le début et la fin. En même temps, le livre que vous avez, la Bible, elle a un commencement et une fin. Ça s'appelle la Genèse et l'Apocalypse. En fait, ça explique quoi, la Bible? Ça explique une partie de l'éternité, hein, parce que l'éternité est plus longue que la Genèse et l'Apocalypse. La Genèse commence quelques milliers d'années, et l'Apocalypse va se terminer bientôt, enfin, le temps de l'Apocalypse. Mais donc c'est une durée relativement faible par rapport à l'éternité. Donc la Bible ne raconte pas toute la Bible, tout ce qui est Dieu, tout ce qu'on va vivre dans l'éternité avec Dieu. Ça, c'est à venir, et c'est enthousiasmant de pouvoir savoir qu'on va vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Donc, le Genèse et l'Apocalypse, c'est juste l'histoire du salut. C'est l'histoire du rachat. C'est l'histoire que j'ai dit tout à l'heure, où Dieu est venu pour racheter l'humanité. Et donc, il commence par expliquer que l'homme a chuté et qu'il prévoit une promesse en disant que, au travers de la femme, il y aura Jésus qui va venir un jour et qui est venu, effectivement, il y a 2000 ans, pour racheter l'humanité. Donc, c'est cette histoire-là. Donc, il faut replacer l'Église dans cette histoire. Sinon, on ne comprend à rien. L'Église, Elle a commencé à la Pentecôte. C'est la flèche orange qui est un peu décalée par rapport à la croix, puisque c'est après la résurrection, l'ascension, la Pentecôte. Donc, l'Église commence là, par la puissance du Saint-Esprit qui souffle sur les apôtres. Et elle va se terminer, alors je vais vous l'illustrer un petit peu plus avec ces images qui vont venir. Donc là, c'est la résurrection, la première résurrection d'un humain qui est Jésus, qui est homme, qui est le Fils de l'homme. Donc la première résurrection, c'est le début de l'Église. Et la dernière résurrection, il y a plusieurs événements qui vont se succéder assez rapidement. C'est d'une part l'enlèvement de l'Église, que vous voyez en bas à gauche, ici. Voilà. Vous voyez la parousie. La parousie, c'est ce fameux cube, parce que dans l'Apocalypse, on le dessine, enfin, on le décrit. C'est une vision, hein, symbolique, mais l'apôtre Jean le décrit comme un cube, où tous les côtés sont égaux avec le nombre symbolique de 12. Pour ça, il y a les 144 000, etc., mais c'est du symbole. Donc, vous avez le cube ici, avec un dôme au-dessus, et qui descend. La Jérusalem, qui s'est constituée dans le ciel, tous les croyants de tous les temps, qui va descendre sur la terre, ici, voilà, vous voyez la descente ici, et après cela, il y aura la deuxième résurrection. Et la deuxième résurrection, c'est nous qui aurons le même corps que Jésus, la première, parce que ça s'appelle les prémices. Pour ça, la Pentecôte, c'est les prémices de la moisson. Et ici, c'est la récolte, c'est la fin, c'est la consommation. Et c'est ça que nous vivrons. Et c'est cette espérance et entre la première et la deuxième résurrection où on trouve le peuple de Dieu, qui, en partie vivant sur la terre, pendant une centaine d'années pour certains, un peu moins ou un peu plus pour d'autres, mais qui rentreront dans toute cette épouse qui est l'Église, et qui vivront tout ça en même temps. Nous serons au son des trompettes, au son de la dernière manifestation de la puissance de Dieu, quand le Satan et les anges seront définitivement dans l'Hadès, eh bien, nous ressusciterons avec le Seigneur et nous vivrons éternellement avec lui. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Comme Jésus est ressuscité, nous ressusciterons aussi. Et l'apôtre Paul dira dans les Épîtres, si nous ne croyons pas ça, il vaut mieux arrêter. Les jeunes, arrêtez tout de suite si vous ne croyez pas ça, parce que ça ne sert à rien d'être chrétien. Ça ne sert absolument à rien d'être chrétien, parce que c'est la seule chose qui nous sépare des autres religions. Les autres religions, ils ont une sagesse qui est très très développée. Le bouddhisme, le taoïsme, l'Inde, enfin, les Incas, etc., ils ont des sagesses, hein, qui sont très très élaborées. Mais aucune d'entre elles n'a la résurrection des morts, d'autant plus qu'ils n'y croient même pas, parce qu'ils considèrent que c'est mauvais, notre corps est mauvais. Comme notre corps est mauvais, on ne va pas, dans une religion, imaginer que le corps va ressusciter, puisqu'il ne nous ramène que des propos, que des tracas. Et ça, c'est les religions. Alors que la Bible ne dit jamais que le corps est mauvais. Hein. Simplement, il est attaqué aujourd'hui par la maladie, il est attaqué par la mort, il est attaqué par toutes sortes de choses. Mais ces choses-là vont changer, puisque Jésus l'a montré, son corps, il n'est plus attaqué ni par la maladie, ni par la mort. Alors, ça, c'est la caractéristique première du christianisme. Bien sûr, il y en a d'autres, mais qui doivent vraiment être au fond de notre proclamation, de notre évangélisation. Parce que là, les gens ne peuvent rien dire. Ils ne peuvent pas évoquer d'autres choses, d'autres sagesses, puisque c'est la seule qui n'existe pas dans les autres religions. Donc ça, c'est important de contextualiser l'Église dans le temps. Hein. Avant, il y avait Israël. C'était le peuple de Dieu que Dieu avait suscité par Moïse, avec la loi. Et là, c'est la grâce. La grâce, c'est que nous n'avons pas besoin de faire d'efforts pour entrer dans l'Église. Nous avons juste exercé la foi. La foi dans ce que Jésus est l'homme parfait, qui a obéi parfaitement à la loi de Dieu, cette loi-là. Non pas que la loi était mauvaise, c'est pareil, mais simplement on ne pouvait pas la remplir, on ne pouvait pas l'exécuter. Comme aujourd'hui, il y a des chrétiens qui veulent exécuter la loi. Non, on ne peut pas exécuter la loi. Mais au travers de Jésus, il va nous donner la grâce de pouvoir obéir aux commandements de Dieu qui sont dans la loi de Moïse et dans la loi que Jésus a donnée aussi à ses disciples. Donc ici, la loi, ici la grâce et l'Église qui va se terminer. Ensuite, après, on sera éternellement avec le Seigneur quand le règne sera remis au Père. Ici, entre ces deux-là, Jésus doit régner pour le combat spirituel qui est en cours. Là aussi, comment il se passe? Ça se passe surtout dans le deuxième ciel. Là, écoutez les cassettes de John Paul Jackson et vous comprendrez beaucoup mieux ce qui se passe dans cette période-là. Hein. Puis aussi, le livre de Daniel en parle un petit peu. Mais c'est pas l'objet de ce que je veux dire ce matin. La deuxième chose qui est absolument fondamentale pour comprendre notre identité en tant qu'Église, c'est qu'il y a une vision paradoxale du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, alors là on voit ça dans l'évangile, dans les synoptiques, les trois évangiles, l'évangile de Jean, les épîtres de Paul, qu'on étudie dans la théologie du royaume, c'est qu'en fait il y a un dualisme, on appelle ça le dualisme eschatologique du royaume. C'est-à-dire le royaume n'est pas un royaume qui est sur la terre et dans le ciel, il n'est pas sur la terre. Jésus l'a bien dit, il a dit « mon royaume n'est pas de ce monde ». Le royaume présent, donc je l'appelle SP dans les autres diapositives que vous verrez, le siècle présent, dans le siècle présent, il n'y a pas le royaume de Dieu. D'ailleurs, c'était le gros problème des Juifs et des apôtres. Jusque même à la Pentecôte, ils n'ont pas compris que le royaume de Dieu n'était que dans le ciel. Dans le ciel, je parle du haut et du bas. Hein, parce que le ciel, ce n'est pas forcément les nuages. Hein, c'est un royaume qui est plus élevé que celui sur la terre. Parce que le problème du royaume présent, ce n'est pas qu'il est mauvais en soi. C'est-à-dire la matière, les chaises, quand on est assis dessus en tant qu'être humain avec notre corps, ça, ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais dans le royaume présent, c'est le système de corruption, le système des pensées, le système de la philosophie, le système de tout le système que l'être humain a développé, la politique, la science, tout ça, c'est ça qui est mauvais. Et c'est là que Jésus s'est départi. Or, les disciples à l'époque espéraient que Jésus soit la tête d'Israël. Donc qu'il allait se confronter avec César. César, à l'époque, hein, il aurait dû renverser César pour dire « Non, maintenant Israël, voilà, il a un roi, je suis le roi. » Et donc, donc il établit une souveraineté sur Israël. Et c'est ça que tout le monde attendait. Que tout le monde attendait. Parce qu'ils étaient rivés les yeux sur la terre. Ils étaient rivés sur un Messie qui allait les délivrer des Romains. Or, le royaume de Dieu n'est pas sur la terre, parce qu'il est corrompu. Et ce royaume va s'arrêter ici, et se terminera par le jugement. Par contre, le royaume, il existe, mais il est avec Jésus dans le ciel. Il est en haut. Donc ça, c'est très important à le comprendre, c'est que ici, le royaume parfait, il y a encore un royaume parfait, c'est celui où vit Jésus, et où nous, chrétiens, nés de nouveau, j'insiste bien, sans la nouvelle naissance, on n'est pas chrétien, eh bien nous vivons avec Christ, nous sommes assis avec Christ dans les cieux. Amen. Vous rappelez ce verset? Donc, le royaume de Dieu est d'abord en haut et en avant. Vous voyez, en avant. En avant parce que vous voyez qu'il y a une progression ici de l'histoire. L'histoire ne s'arrête pas à la résurrection de Jésus, elle va continuer avec notre résurrection. Donc cette histoire, nous sommes dans cette histoire. Alors malheureusement, nous sommes en tension entre ces deux royaumes, hein, parce que notre corps est là. Mais le corps ici, justement, il va avoir une résurrection et recevoir ce corps-là. Donc ici, en avant, dans cette période-là, nous serons intégrés dans le plan de Dieu qui était initialement prévu, ou dans le jardin d'Éden, Jésus s'entretenait avec Adam et Ève. Ils s'entretenaient, il y avait une relation, parce qu'il n'y avait pas cette corruption. La corruption est venue par le péché. La corruption est venue par la rébellion. Voilà, donc ça c'est des préliminaires pour comprendre ce que c'est que l'Église. Parce que l'Église, ce n'est pas juste les trois cases que j'ai citées. C'est que les trois cases, vous les verrez, il y en a certains qui sont ici et certains qui sont là. Et c'est ça la coopération dont je parle tout à l'heure. C'est simplement parce que si naturellement, en tant que chrétien, nous ne comprenons pas ça, nous n'allons pas coopérer et nous n'allons pas progresser et nous ne pourrons pas être des chrétiens victorieux. Nous serons des tristes chrétiens parce que voilà, nous allons traîner toute notre vie simplement en n'ayant pas les victoires que le Seigneur veut nous donner. Alors, je commence par le modèle de Dieu. Dieu, il se place aussi dans ce contexte, okay, parce que Dieu est le Dieu de l'histoire. Donc il faut bien comprendre le modèle de Dieu, parce que le modèle de Dieu, c'est aussi le modèle de l'homme et le modèle de l'Église. C'est-à-dire que Dieu est, dans le credo, hein, du christianisme, Dieu est un et trois, indivisible. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et pourquoi il est Père, Fils et Saint-Esprit ? Parce que c'est une communauté d'amour. L'amour ne peut pas s'exprimer tout seul. Parce qu'avant l'existence des hommes et des anges, il y avait Dieu. Et en Dieu, il y a l'amour. Mais l'amour ne peut se manifester qu'à trois. Parce que l'amour tout seul s'appelle comment ? L'amour tout seul. Vous connaissez tous l'amour tout seul. Celui qui se regarde c'est Narcisse, hein, l'amour narcissique. Si Dieu se regarde dans une flaque d'eau, eh bien il s'aime lui-même, c'est Narcisse, hein, c'est le narcissisme qui aujourd'hui, effectivement, est ce qui prévaut dans la société actuelle, individualiste narcissique. À deux, s'il y a deux personnes qui s'aiment tout seul, ça s'appelle comment cet amour ? Fusionnel, voilà, l'amour fusion. C'est-à-dire qu'ils s'aiment, mais tous les autres autour, ils ne s'en intéressent pas. Avec la troisième personne, un minimum, après vous pouvez monter à plus, la troisième personne, ça permet d'avoir l'amour don. Le Père et le Fils s'aiment, mais ils donnent à l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est l'amour don. L'amour don, il faut au minimum trois personnes. Et c'est ce qui se passe en Dieu. Dieu est un amour parfait. Sauf que il est aussi justice. Et c'est pour ça que ça complique les choses. Il est aussi justice. Parce qu'il a dit, si tu manges de cet arbre, tu mourras. Et il tient parole. L'homme n'a pas tenu compte, mais la mort est là. Et il ne pouvait pas retirer la mort, puisqu'il a donné cette parole. Donc il fallait que lui-même, Dieu, dans sa justice, trouve une solution, ce qu'on appelle le plan de rédemption, où il a dû donner son fils, par amour, qui lui vive une vie parfaite, ce que n'a pas fait Adam, et qui, au travers de son sang, eh bien, nous recevions la vie. C'est le plan de rédemption. Donc vous voyez ici, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, eh bien, le Christ est venu, il est mort à la croix, mais le Saint-Esprit, par la puissance, l'a ressuscité. C'est la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Et c'est pas ressuscité tout seul, le Seigneur. Alors, parce qu'il était à ce moment-là dans les liens de la mort pour expier le péché. Et donc, le Père a envoyé le Saint-Esprit pour le ressusciter d'entre les morts. Et ensuite, après, c'est Jésus qui envoie le Saint-Esprit sur les croyants à la Pentecôte. Donc, c'est toujours un amour don, voyez-vous. Le Saint-Esprit est donné, il est donné à Jésus. Pour le ressusciter, il nous est donné pour vivre une vie de puissance de résurrection. Alors, à partir de ça, Donc il agit dans l'histoire. À partir de ça, vous allez beaucoup mieux comprendre ce que c'est que l'être humain et l'Église. Là, je vais aller très vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais revenir dessus pour mieux l'expliquer par la suite, mais pour vous donner une idée de là où on va dans la compréhension de l'Église. Là, je ne le développe pas. La vision de l'homme. L'homme est esprit, âme et corps. Sauf que, avant de naître de nouveau, on est d'âme et de corps. Un peu comme une larve, si vous voulez. L'équivalent d'une larve, c'est nous sommes âme et corps. Nous vivons, mais nous vivons sur la terre. Nous ne pouvons pas nous envoler. Mais quand nous recevons la nouvelle naissance par le Saint-Esprit, notre esprit commence à vivre. Et c'est par l'esprit que nous pouvons adorer Dieu. Dieu est esprit, nous l'adorons en esprit en vérité. Donc un chrétien ne peut être chrétien que par la nouvelle naissance. C'est pour ça que dans les églises des multitudes qui le font par baptême des enfants, certains peuvent se convertir, tant mieux. Mais d'autres ne sont jamais convertis et sont dans l'Église. Donc vous voyez qu'il y a déjà là un mauvais fruit qui va produire des divisions par la suite, tout à fait normales, et qui a poussé les églises évangéliques à se démarquer des églises protestantes qui étaient basées sur le message du Christ, mais qui n'ont pas né de nouveau. Donc la nouvelle naissance, c'est être rené. Hein, on est rené. Ici, on est né, on est rené, et par l'Esprit. Et ce qui fait que c'est par l'esprit qu'on vit dans le siècle à venir, qu'on vit dans le royaume de Dieu. Alors que l'âme et le corps vivent dans le siècle présent. Dans le siècle présent. Et c'est ça qui amène la tension. Ici, là, j'ai marqué un petit ici, là, la tension. La tension du chrétien. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul montre qu'il y a deux types de chrétiens. Il y a le chrétien pneumatikoi, ou téléios, si vous voulez, c'est le chrétien mûr. Et les sarkonoi, les charnels. Ça, c'est la chair, ça. Il y en a qui vivent comme si leur nouvelle naissance, c'était sur une étagère, là, ils sont nés de nouveau, et ils vivent dans le monde. Voilà, donc ils sont charnels. Et il y en a d'autres qui, leur nouvelle naissance, ils la prennent en compte, ils comprennent la puissance de la croix, ils comprennent la puissance de ce que Jésus a fait, ils comprennent qu'au travers de ce que Jésus a fait, ils peuvent se l'appliquer. Ministère de la Maison d'Élie, ils peuvent se l'appliquer et devenir libres et s'envoler comme des papillons. Parce qu'ils sont papillons. Par la nouvelle naissance, on est papillon. Par la grâce. Mais si on n'utilise pas notre capacité de s'envoler comme des papillons, on vit comme des larves. Donc, c'est là qu'il y a la coopération. La coopération entre nous et Dieu, c'est pour nous. Pas pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de coopérer, de coopération pour faire ce qu'il a à faire. Il est puissant. On n'a pas besoin d'aider Dieu. Il y a des chrétiens qui veulent aider Dieu. Je connais des pasteurs qui veulent aider Dieu. Ah oui, il faut aider Dieu. Désolé, mais il n'y a pas besoin d'aide. La puissance qu'il a, c'est dans des mégawatts, méga-puissance, etc. Non, il veut qu'on coopère pour notre bien, pour que nous rentrions dans notre destinée. Notre destinée, c'est être esprit, âme et corps, et on le verra la prochaine fois, tel que Dieu nous a prévu. Et là, c'est la différence entre l'image et la ressemblance. Dieu nous a fait image et ressemblance. L'image, c'est ça l'image. C'est esprit à mes corps. Mais la ressemblance, c'est lorsque notre esprit prend le dessus sur la chair, quand nous marchons par l'esprit, et à ce moment-là, c'est la ressemblance morale. Nous pouvons être équivalents à la moralité de Dieu. Sinon, en tant que chrétien, nous sommes image, mais nous ne sommes pas dans la ressemblance. Jésus-Christ a été dans la ressemblance. En tout point, il révélait l'amour du Père. D'ailleurs, il a dit, si vous me connaissez, vous connaissez le Père. Alors ? Mais ils n'ont pas connu physiquement, ça c'est l'image. Mais la ressemblance, c'est que Jésus, en toute chose, a agi comme si le Père était sur la terre, comme Dieu, en tant qu'homme. Et ça, c'est la ressemblance. Donc on reviendra là-dessus pour montrer que effectivement. En fonction de notre coopération, nous serons des chrétiens mûrs ou des chrétiens charnels. Et là, la différence, et ça produit, bien sûr, d'autres problèmes dans les églises. Les premiers, bien sûr, c'est la multitude, c'est que ce ne sont pas du tout nés de nouveau, donc c'est des larves. Et d'autres qui ne prennent pas à cœur ce qu'ils sont pour se l'appliquer, c'est la coopération avec Dieu. Alors, je termine avec l'Église, qui, elle, fonctionne de la même manière, parce que l'Église est simplement un ensemble d'individus, un ensemble de chrétiens individuels. Et là, nous avons trois fondements, c'est l'épouse, l'État et l'Ecclésia. On reviendra là-dessus, hein, mais l'épouse, c'est la seule qui vit naturellement dans le royaume de Dieu, par grâce. C'est la nouvelle naissance. Nous n'y sommes pour rien. Dieu nous donne d'être nés d'en haut, ou nés de nouveau, puisqu'à Nicodème, il a dit, bah, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Il faut que tu naisses d'en haut pour rentrer dans le royaume de Dieu. Donc la naissance d'en haut nous fait rentrer dans le royaume de Dieu, c'est l'épouse, hein, c'est un privilège. Et la naissance d'en bas nous fait vivre l'État, c'est-à-dire l'utilisation des pouvoirs de coercition sur une assemblée pour la faire fonctionner et l'Ecclésia qui est l'assemblée des membres. Et on peut rester charnel. Voilà. Et c'est toute l'exhortation des épîtres que les apôtres ont déployé, et que l'apôtre, par exemple, Paul dit, bah, j'ai personne qui est avec moi à part Timothée. Pourquoi ? Parce qu'ils s'occupent de leurs affaires au siècle présent. Il n'y a que Timothée qui s'occupe du siècle à venir. Voilà. Donc nous avons cette disparité entre des chrétiens charnels, des chrétiens spirituels, et surtout entre les deux. Nous sommes tous entre les deux, nous sommes en marche. Nous ne serons jamais de toute façon parfaits comme Jésus, sauf à la résurrection. Puisque la résurrection, nous aurons un corps nouveau qui ne sera plus atteint par le péché, puisqu'il n'existera plus. Donc, voilà, cette idée, enfin, cette vision globale nous permet de mieux comprendre ce que c'est que l'Église. Alors, on verra tout simplement sous une autre image, hein, par exemple celle-là, vous voyez que l'Église, voilà, bien sûr, vous avez une image de l'ensemble de personnes, mais à l'intérieur, il y a l'épouse, il y a l'Ecclésia et il y a l'État. Voilà. L'un est terrestre, l'autre est céleste. Et ensuite, après, donc ça, c'est la réécriture de la vision que vous aurez à faire en 2020, qui est l'action, qui est tout à fait coordonnée avec les précédents, on le verra. Et en résumé, nous avons donc l'épouse, l'État, l'Ecclésia, et trois dynamiques qui se mettent en place, trois dynamiques qui sont liées à la relation père-fils, hein, qui ici donne les charismata, les ministères dons, qui donne la façon de voir, qui est la vision paradigme, pour pouvoir aller dans ce plan, et le plan d'action qui est l'autorité opérationnelle. Et dans les groupes de maison, je donnerai cet exercice que vous trouviez. Depuis 1998, où l'Église s'est fondée, nous avons suivi ce plan. Eh bien, nous avons 19 ministères dons à trouver dans la Bible, 4 ministères spécifiques développés au sein de l'EPEA. Nous avons le paradigme, bon, ça, je vous demanderai pas de le trouver, mais en tout cas, de montrer ce que vous comprenez entre cette vision et la vision appel. Et 22 plans d'action qui ont été déployés depuis 1998 et un 23e plan qui déploie en 2020. Parce que toute l'Église ici est construite là-dessus. C'est pour ça que je vous en parle. Ce que je vais vous dire, mais que je reviendrai un peu plus en détail, est construit là-dessus. Ce n'est pas une action comme ça. C'est le Saint-Esprit qui a conduit à trouver l'inspiration et ensuite après les plans. Et donc tous ces plans-là, quand vous les verrez, quand vous les trouverez, vous allez comprendre ce que c'est que l'Église. Parce que l'Église est basée sur ces 22 plans d'action qui sont des plans qui ont fondé l'Église, les valeurs de l'Église, la façon d'avancer, la façon de progresser, la façon de mûrir, etc. etc. Et donc c'est là-dessus que tout est basé. Donc on reviendra plus en détail sur ce que j'ai fait très très rapidement ici. Mais pour terminer, je dirais que quand on simplifie l'Église, on passe à côté de la compréhension de l'Église. L'Église, voilà, c'est un ensemble de personnes qui sont dans un bâtiment et qui s'aiment et qui louent le Seigneur, etc. On ne voit pas qu'en fait, nous sommes prisonniers de ce plan que nous ne comprenons pas, qui est pour nous, qui n'est pas pour Dieu, c'est pour l'homme, le plan de rédemption. Et le plan de rédemption, ce n'est pas arrêté à la croix. Il continue avec l'utilisation de la croix. Et c'est pour ça qu'avec Michel, on a voulu vous faire découvrir le ministère de la Maison d'Élie. Parce que non seulement il est basé sur cette compréhension-là, puisque la croix est omniprésente, elle était déjà dans le TQP, pas de problème. Mais il n'y a pas que les démons. On verra comment les démons agissent là-dessus. Parce que la démonologie, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises qui ne voulaient pas entendre parler à chrétiens qui ont des démons. Non. Ils sont influencés par des démons. Il faut savoir où ils sont influencés. Si on sait où on est influencé, on peut réagir. On peut avoir les armes spirituelles pour ça. Voyez, mais si on ne sait pas, on commence à paniquer. Et du coup, on est victime de sa panique. Le ministère de la Maison d'Élie nous aide à nous libérer, à coopérer avec le Seigneur. Il y a le combat spirituel. Aujourd'hui, il y a des églises qui font du strategic level, c'est-à-dire du niveau stratégique du combat spirituel. Nous, on l'a fait aussi, mais tout le ciel nous est tombé dessus. Et on a très vite compris qu'il ne fallait surtout pas faire ce genre de combat. C'est Jésus qui le fait. Mais nous avons à coopérer avec Dieu pour que nous puissions entrer dans notre destinée individuelle et d'église. Donc là, on comprend réellement ce que c'est que la coopération, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire. Et on a fait ça depuis 22 ans. Et moi, je propose de continuer, puisque je resterai toujours pasteur principal, rassurez-vous. Pierre-André va prendre l'opérationnel. Mais je veillerai, tant que ce sera possible, à ce que cette dynamique de l'Église puisse aider l'Église ici de Bergenville et ceux qui feront partie à entrer dans leur destinée, à être témoins dans cette génération post-moderne, cette génération. Et j'ai expliqué longuement à mon fils, à Samuel, la vision que je porte, il peut très très bien la porter, mais il n'utilise pas les capacités que Dieu lui a données. Et ça, je lui ai dit, mais écoute, je peux te le transmettre parce que tu as la capacité, mais si tu ne l'utilises pas, tu seras responsable devant Dieu de ne pas l'utiliser. Parce qu'aujourd'hui, on a les outils pour développer l'évangile avec la puissance de la persuasion, comme au temps de Paul, mais avec les outils modernes. Parce que Dieu a levé les voiles de la connaissance, et le voile de la connaissance, c'est sur sa réalité. Ce n'est pas une réalité que l'homme n'a rien créé, il détruit. Hein. Pour ça, il y a le problème de l'écologie aujourd'hui. Il peut détruire, mais il ne peut pas construire. Il ne peut pas créer une autre planète. Alors, on va aller sur Mars, ok. Mais si l'homme était aussi puissant, il devrait créer une deuxième Terre. Qu'est-ce qui l'empêche? Il fait une deuxième terre et on va sur l'autre terre. Comme ça, c'est bon. Ah non. Ni lui, ni le diable fait ça. Ils ne sont pas créateurs. Vous voyez, on va s'échapper sur Mars. On va s'échapper sur une planète. On va dépenser des milliards alors qu'il y a des gens qui meurent de faim. Voilà, c'est ça, la sagesse humaine. Mais aujourd'hui, avec la révélation que Dieu a donnée, je peux vous garantir qu'on peut démontrer la puissance de Dieu dans ce qu'il a créé. Avec des moyens efficace de persuasion comme Paul à son époque. Et c'est ça que j'aimerais que les jeunes puissent se lever ici dans cette église. Parce que vous avez les éléments, mais il faut s'en donner un peu la peine. Il faut coopérer avec Dieu, pas être des larves, mais être des papillons. Nous avons appris à voler, mais si nous ne les utilisons pas, nous allons, comment on appelle ça, nous restreindre. Nous rétrécir, ouais. Voilà. Et on ne va plus pouvoir utiliser les ailes. Voyez. Seigneur, je te prie, afin que cette église ici, que tu as appelée, Seigneur, à être témoin dans cette ville, mais aussi dans cette génération, puisse se lever des hommes et des femmes, des jeunes en particulier, qui prennent vraiment le taureau par les cornes, comme on dit, pour mettre cette société sens dessus dessous par la puissance de l'évangile. Cet évangile n'a pas changé, il a toujours la même puissance. Mais Seigneur, tu veux donner les moyens de pouvoir éclairer ceux qui sont dans les ténèbres pour les amener à considérer, à comprendre que il y a du sens à notre vie et que ce sens, c'est toi qui l'as donné dans ta parole. Seigneur, merci. Parce que tu es tout puissant. et nous voulons, Seigneur, te bénir parce que tu vas le faire, nous le croyons, et que tu veux garder cette église dans ta main pour qu'elle puisse être un phare dans toute cette région et même au-delà, au nom de Jésus. Amen.